Alain Roneco, c'est aussi sur internet rcf.fr. Dans un instant, carte électorale, votre émission politique.
Carte électorale reçoit aujourd'hui le maire de Meyzieu, Christophe Quignot.
Carte électorale, une émission présentée par Jean-Baptiste Cocagne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Carte électorale, l'émission politique diffusée chaque week-end sur RCF Lyon, vous le savez, le samedi à 10h30 et le dimanche à 17h. Aujourd'hui, notre invité est le maire d'une commune de l'Est lyonnais, 36 000 habitants, 9e commune la plus peuplée de la métropole de Lyon, c'est la ville de Meyzieu. Bonjour Christophe Quignot.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes élu d'hiver droite, maire de Meyzieu depuis juin 2017, élu également à la métropole de Lyon, où vous siégez dans le groupe d'opposition de droite La Métro Positive. Alors peut-être d'abord une réaction sur un événement fort de cette semaine. Une surveillante a été tuée par un collégien de 14 ans dans un établissement de Nogent-sur-Marne lors d'une fouille aléatoire des sacs par les forces de l'ordre. Une fouille, une mesure prise pour lutter paradoxalement contre les violences aux abords des établissements scolaires. Il y a un an, sur votre territoire, l'école Marcel Pagnol de Meyzieu avait été incendiée par deux mineurs condamnés depuis à 4 mois de prison avec sursis. Comment peut-on sanctuariser, sécuriser les établissements scolaires ?
Alors, la mesure de sanctuarisation peut prendre plusieurs effets. Ce qui est fait à Meyzieu et dans le cadre du lycée de la région, le dernier lycée construit, le lycée Colonel Arnaud Beltrame, est une sécurisation, une sanctuarisation dans la mesure où seuls les élèves et les professeurs peuvent rentrer dans le lycée. Donc il y a des portiques et un contrôle d'accès, ce qui est une très bonne chose. Ensuite, la question de ce qui s'est passé avec le drame de Nogent, c'est le contrôle et éviter d'introduire des armes finalement et mettre des portiques. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à Nogent s'est passé en dehors de l'établissement, devant, alors qu'il y avait tous les moyens nécessaires pour vérifier le contrôle. Donc le sujet n'est pas d'aller définir qu'est-ce qui a le droit de rentrer ou pas, parce qu'il n'y a pas de fin. Aujourd'hui, tout peut être une arme par destination. On parle des couteaux, le sujet se cristallise autour des couteaux, des portiques, avec la difficulté, les couteaux en céramique. Mais une fois qu'on aura traité le problème du couteau, est-ce qu'il faudra interdire les pierres? Et voire même la première arme qui peut être une arme par destination, c'est finalement les simples mains des personnes, on ne va pas les interdire évidemment. Donc le vrai sujet, le sujet de fond, qui se pose tant à nos gens que ce qui s'est passé à Meyzieu avec l'école, Marcel Pagnol, c'est comment en est-on arrivé là et pourquoi certaines personnes, cette jeunesse, n'a plus de repères et se permet d'aller, de faire tout et n'importe quoi, dégrader des équipements publics, brûler des écoles, voire passer à l'acte et commettre des meurtres. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre société. Et il faut se poser sans doute les bonnes questions. Et le portique à l'entrée d'un établissement n'est pas la solution. C'est une réponse à court terme pour évidemment marquer qu'on n'est pas impuissant par rapport à ce sujet-là. Mais c'est bien sur le fond éducatif qu'il faut se poser les questions.
Mais depuis votre poste d'observation de maire, vous sentez, vous constatez une montée de la violence, une forme de radicalisation dans l'action et de plus en plus jeune ?
C'est pas forcément une montée de la violence, c'est une perte de repères et une globalisation de l'irrespect. Un irrespect global qui ne touche pas seulement les jeunes, mais toute la société où, finalement, la transgression des règles devient presque la norme, à tout niveau. De la personne dans sa voiture qui va continuer d'utiliser son téléphone parce qu'elle estime que c'est important, ne pas respecter exactement la signalisation tricolore, les feux, qui va griller un feu, c'est pas grave, il a dépassé d'une seconde. Et petit à petit, on augmente cet irrespect et ça prend des parts de plus en plus grandes. Il n'y a plus de valeur d'exemple, plus de valeur de respect des règles, en tout cas de moins en moins. Et une agressivité latente dès qu'on veut faire respecter les règles. Et là, c'est vraiment l'administratif qui parle, qui gère une commune. On sent que petit à petit, dès qu'on impose des règles, il y a une volonté de transgresser ces règles de plus en plus. L'identification de la cause Pourquoi ? Est-ce que on est dans un pays où on a finalement, année après année, on parle de ce côté latin, un petit peu des Français, en disant le français est toujours un petit peu en marge. Et c'est pas comme dans les pays du Nord, où on respecte plus, nous c'est plus les pays du Sud. Je n'en sais rien, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et de façon impérative, rapide, c'est reprendre le contrôle, et que on ait un continuum éducatif global de respect des règles.
Vous voyez les choses évoluer depuis votre élection en 2017 en tant que maire, justement. Est-ce que vous avez des administrés de plus en plus agressifs, ou on parle souvent de violence envers les élus? C'est quelque chose que vous ressentez?
Alors je le ressens pour partie, pas de toute la population, mais une certaine population qui, en tant que représentant de l'administration et de l'ordre, je suis ciblé, mais comme le sont les policiers, les pompiers et tout ce qui représente un petit peu l'autorité. Il y a quand même eu un point de rupture avec 2020, le Covid. Il y a très nettement eu cet élément clé qui a bouleversé et complètement déstabilisé notre société. Tout ce qui était établi, même l'intangible, a bougé. Prenons l'exemple de l'école. Jusqu'en 2020, il n'aurait jamais été imaginable, pour qui que ce soit, de dire qu'il n'y aurait pas d'école pour les enfants. Et d'ailleurs, quelques jours avant la mesure, c'était rappelé par les décideurs. L'école doit rester l'école et on accueillera toujours les enfants. Du jour au lendemain, par une décision qui avait des orientations sanitaires à la base, on a déstabilisé tout un pays. Les personnes ne sont plus allées travailler, elles ont perdu la liberté de circuler, les enfants ne sont plus allés à l'école, et on a tout bouleversé. Et on a laissé à voir que finalement, ce qu'on pensait
intangible,
est devenu mobile, et qu'on pouvait finalement tout bouger, qu'il n'y avait plus de règles établies. Un socle, ce socle aujourd'hui, a volé en éclats. Et on remet tout en cause. Et c'est un peu ça ce qu'on constate au quotidien, c'est cette remise en cause de tout. Toute décision doit être soit discutée, et on l'observe à l'école, on l'observe dans l'administration, on l'observe dans les règles, et au plus profond, vous voyez, avec le télétravail, la visioconférence, c'est né aujourd'hui, même le fait de se lever pour aller travailler est remis en cause en disant, mais ce travail, pourquoi je vais aller travailler dans une entreprise, je peux le faire de chez moi, pourquoi je vais me déplacer? Donc vraiment, on a sapé tout ce qui était les fondements, le socle. Et aujourd'hui, on a un rattrapage à faire et on voit bien qu'il faut remettre.
Et donc ça prend du temps.
Et ça prend du temps. L'autre gros problème, à mon sens, dans cette perte de repères globale aussi, est le bouleversement extraordinaire provoqué par les réseaux sociaux et finalement l'incapacité pour la puissance publique de donner un cadre. Je vous donne un exemple très précis. Avant l'Internet, il y avait les chaînes de télé et finalement les médias passaient à radio, télé. Et avec un encadrement, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas diffuser n'importe quoi. Il y avait des programmes régulés. Un jeune, on savait qu'il n'avait pas regardé la télé le soir, et en plus, moins de 10 ans, moins de 12 ans. Tout ça était très bien cadré. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, tout le monde a accès à tout, n'importe quand, pour regarder n'importe quoi. Il n'y a plus aucun contrôle. Aujourd'hui, les enfants, et c'est ce qui s'est passé, semble-t-il, à nos gens, peuvent passer leur temps à regarder des éléments vidéo qui parlent de violence, qui parlent de déstabilisation de la société, qui parlent ou encore les jeux vidéo où on passe son temps, où on est complètement dans des sphères de violence, où le fait de tirer les uns sur les autres devient un amusement. Et donc, il n'y a plus de contrôle aujourd'hui. Les jeunes sont livrés vraiment à eux-mêmes, au sens premier. C'est-à-dire qu'ils peuvent regarder ce qu'ils veulent, quand ils veulent. À part un jeune se construit aujourd'hui. Et donc, cette partie éducative, cet encadrement de l'enfant à l'âge adulte au travers de l'adolescence, qui, on sait que c'est une période difficile pour la jeunesse, aujourd'hui, au lieu d'être cadré et encadré, n'est pas encadré et livré à lui-même.
Christophe Quignoux, le maire de Meyzieu, est notre invité dans Carte électorale aujourd'hui. Un mot peut-être sur la place de Meyzieu dans la métropole de Lyon. Depuis quelques semaines, votre commune compte un nouvel arrêt de tramway devant le lycée colonel Arnaud Beltrame que vous avez évoqué il y a quelques minutes. Un arrêt que vous appeliez de vos voeux depuis longtemps. En quoi un arrêt de tramway peut changer les choses ?
Alors, c'est l'organisation complète de la ville qui est le sujet d'intérêt pour le maire que je suis. Meyzieu est une ville qui se développe beaucoup. Elle est très attractive, elle est agréable. On est deuxième couronne de la métropole de Lyon. Il y a encore des maisons qui restent abordables, en tout cas quand on compare le prix des maisons de l'autre côté de Lyon, notamment à l'ouest. Et cette ville qui s'est construite très rapidement dans les années 70 a déjà commencé sa mutation. Donc elle a fini son premier cycle. C'était une sorte de commune nouvelle. Et aujourd'hui, elle se reconstruit sur elle-même. Donc au-delà d'un simple arrêt de tram, c'est comment on encadre la construction et ne pas laisser la ville grandir trop vite, sous une pression parfois un peu forte, d'une métropole qui a la compétence urbanisme. Donc le sujet aujourd'hui d'un maire de la métropole, il est plus difficile qu'un maire lambda ailleurs en France. Parce que nous avons cet îlot institutionnel particulier, unique, d'avoir des maires qui ont un peu moins de compétences qu'un maire normal de France, ou Gérard Collomb, dans sa volonté de concentrer les pouvoirs à la métropole, a dessaisi les maires de moyens d'action, et notamment, je ne sais pas si tous vos auditeurs le savent, mais les pouvoirs de police du maire ne sont plus aux maires dans les communes de la métropole, une partie, et maintenant dans les mains d'un vice-président de la métropole. Et donc, on ne choisit plus tout. L'urbanisme est décidé à la métropole. L'instruction des permis se fait encore dans certaines villes, pas dans toutes les villes. Et donc, il y a finalement, malgré deux collectivités qui sont censées être séparées, la métropole et la commune, une sorte de pouvoir de tutelle officieux qui s'exerce et qui oblige les maires à transiger de façon continue avec la métropole.
Alors, parfois,
ce qui
ça
est
se passe
très
bien.
Compliqué.
Avec l'arrêt de tram, on imagine que là, tout
alors,
le monde
l'arrêt de tram avait été décidé en 2017, bien avant l'arrivée des écologistes à la métropole, quand j'étais encore élu au Citral, avant cette décision curieuse du président de la métropole,
mais
de dire qu'il ne devait
passe...
plus avoir d'opposition au Citral. Voilà.
Mais parfois, ça se passe moins bien. Parlons de la place de la Concorde, qui est un sujet de discorde pour le coup. C'est un grand projet au sud de votre mairie, Majolane, un grand projet immobilier et de requalification de l'espace public qui doit voir le jour autour de l'ancien hôtel de la Régence, un élément patrimonial de la commune de Meyzieu. Il y a des logements qui doivent être créés, une résidence senior, une halle couverte pour le marché. Le projet avait été inscrit au plan pluriannuel d'investissement, le PPI, donc c'est un peu le grand document guide de la métropole de Lyon pour les années à venir. Mais l'exécutif a fait machine arrière pour des questions de coûts, c'est-à-dire qu'il a fallu rogner sur certains projets. Celui de la Concorde en fait partie. Quel est l'avenir de ce projet aujourd'hui, Christophe Quignoux ?
Alors, je suis ravi que vous abordiez le sujet de cette programmation pluriannuelle des investissements. C'est un sujet majeur de discorde, et pas seulement sur la place de la Concorde. Pour être clair, la métropole concentre les pouvoirs et l'intercommunalité, qu'elle était donc, vit avec les ressources des communes. Et quand je comparais par rapport aux autres communes, la métropole prend ses ressources au niveau des communes, et notamment sur la taxe professionnelle des entreprises. Quand une métropole se développe, elle doit investir, et notamment sur les projets publics. Et donc, elle porte des investissements. Ce qui s'est passé très précisément sur cette mandature, avec une présidence écologiste, c'est qu'il n'y a pas eu de détail de programmation pluriannuelle des investissements, la PPI. Elle a été votée sur des thématiques, le vélo, la construction, le développement des voies bleues et vertes. Mais les projets n'étaient pas ciblés. Et nous n'avons jamais eu, en tant qu'élus métropolitains, le détail de cette programmation pluriannuelle des investissements. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a été programmé à Meyzieu. On m'a dit certains projets seront à la PPI. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas combien la métropole a investi précisément sur chaque commune. Cette demande a été faite maintes mois renouvelée au président pour savoir finalement combien investissez-vous sur chaque commune. parce que il doit y avoir un accompagnement de la métropole. C'est bien gentil de demander aux communes de construire du logement. Nul ne revient sur le fait qu'il a besoin de produire du logement sur la métropole de Lyon. Mais quand vous produisez du logement, il faut aussi produire les équipements qui vont avec. On pense naturellement aux écoles, c'est facile, mais il y a aussi tout l'accompagnement avec les structures publiques, les espaces sportifs notamment. Si on parle de jeunesse, si on veut une jeunesse qui ne soit pas oisive mais occupée, il faut bien produire des occupations. Mais là, on n'a pas d'accompagnement de la métropole sur ses investissements. La ville doit porter elle-même tous les investissements alors qu'elle n'a plus les ressources, vu que les ressources sont montées à la métropole. Elles étaient intercommunales avant, aujourd'hui c'est séparé, c'est plus intercommunal.
Donc ce que vous demandez, c'est un retour à l'intercommunalité finalement ?
Ce que je demande, c'est un vrai accompagnement de la métropole sur des politiques globales. Et on ne peut pas se laisser voir imposer au travers des grands plans locaux d'urbanisme de la production de logements s'il n'y a pas un accompagnement complet d'une politique globale. Aujourd'hui, les maires se retrouvent un petit peu avec une capacité d'action très limitée, car sans ressources, les ressources sont remontées à la métropole et elles ne redescendent pas.
Donc,
au niveau
vous,
des communes.
N'y est pas, très
clairement. Mais peut-être qu'elles redescendent. Mais est-ce qu'il y a une équité ? Aujourd'hui, quand je reprends le cas des les fameuses voies lyonnaises, vous voyez,
donc les voies cyclables express.
Ou plutôt, on ne va pas parler des voies lyonnaises, mais de la politique cyclable générale de la métropole. Parce qu'après, on va dire qu'on ne compte pas tout dedans. Donc si on prend l'investissement global de la métropole sur la politique cyclable, c'est un demi-milliard. Ce demi-milliard, quelle est la répartition sur les communes ? On n'en sait rien aujourd'hui. Moi, ce qui me gênerait, c'est qu'il y ait 400 millions sur Lyon, et après, très peu sur le reste de l'ensemble des 57 autres communes. Si vous voulez, moi, ce que je veux, c'est une équité territoriale.
Donc, vous demandez plus de transparence.
Plus de transparence et une équité territoriale. Je ne voudrais pas que la métropole profite à Lyon, et tant mieux pour les Lyonnais, mais que ceux qui payent aussi et qui financent, à savoir les communes périphériques, soient juste bonnes à produire le logement et à supporter une charge de mes investissements pour permettre à Lyon de dérouler une politique vertueuse environnementalement, mais qui coûte très cher.
Le temps file, Christophe Quignoux. J'aimerais parler d'un autre projet d'envergure, c'est celui à l'arrivée ouest de votre ville de Mézieux, le quartier de Pessilieu, situé juste en face du Groupama Stadium de Décines, connu en général pour son hypermarché Leclerc. Plusieurs demandes d'extension ont été faites par la direction de l'hypermarché, toutes refusées à ce jour, si mes informations sont bonnes. À la place, la métropole prévoit un grand projet agricole avec une sanctuarisation d'hectares, de 7 hectares de terrain, mais aussi la création de logements. Est-ce que ce projet, piloté par la métropole de Lyon, est emblématique de la ville de demain ? Et est-ce que vous partagez cette vision ? Ou là encore, c'est un sujet d'échanges plus ou moins cordiaux avec la collectivité ?
Alors, cher monsieur, je vais me permettre de revenir sur vos propos à deux sujets. Le premier, c'est qu'il n'y a pas que des avis négatifs. La procédure est en cours. Donc le projet n'est pas arrêté. Il y a une procédure, et notamment au niveau de la Commission nationale des activités commerciales, où il y a eu un avis défavorable, mais avec réserve, c'est-à-dire qu'il y a une clause de revoyure. Donc le projet n'est pas arrêté en moment. Il est juste suspendu le temps d'apporter des éléments complémentaires. Le deuxième point sur lequel je veux revenir sur vos propos, c'est que ce projet n'est pas piloté par la métropole. La métropole est un des acteurs de ce projet, mais avant toute chose, il est piloté par le porteur de projet privé et par la ville. Parce que c'est vraiment la ville qui accompagne ce projet, parce que ce projet est nécessaire à l'échelle de Mézieux, pour une raison toute bête. Quand cet hypermarché Leclerc a été fait, Mézieux était une ville, je l'ai dit, nouvelle des années 80. Et il n'a pas changé. Parce que pour X atternoiement de changement de majorité, de terrain sur des signes, ça s'est fait, puis ça ne s'est pas fait, puis il y a eu le grand stade où il a fallu attendre. Ce projet qui aurait déjà dû grandir une première fois ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, on se retrouve à le refaire regrandir une deuxième fois pour à la fois gommer ce qui n'a pas été fait, faire un rattrapage et l'adapter à la ville de demain. Le deuxième point, ce n'est pas un projet qui s'oppose à une structure agricole comme le veut la métropole. Le sujet est assez simple. Pour s'agrandir, Leclerc avait prévu de s'agrandir sur une parcelle qui lui appartient à côté et faire une espèce de bascule. On reconstruisait le nouveau centre Leclerc à côté et on rasait l'ancien. C'est ce montage-là que ne voulait pas la métropole parce que le le terrain pour construire le nouveau, la métropole a souhaité qu'il reste agricole. Donc il a fallu retravailler. Et donc même si la métropole n'a pas la capacité d'interdire cet état de fait, elle a une telle capacité de blocage des projets, étant en charge de la voirie, étant en charge des investissements connexes sur tel ou tel projet, qu'elle peut néanmoins, avec la somme de ses compétences, bloquer un projet. Et donc c'est dans ce cadre-là où il a fallu, bien évidemment, travailler, si ce n'est en bonne intelligence, en collaboration en tout cas, pour que tous les éléments s'alignent.
Mais est-ce que vous avez trouvé un point de chute satisfaisant sur
alors,
ce projet ?
Justement, l'élément qui a été choisi, l'élément de compromis, il est triple. Conserver l'espace agricole en espace agricole, c'était la demande de la métropole. C'était un terrain à vocation économique, acheté très cher par le porteur de projet. Donc il faut comprendre que le porteur de projet a acheté un terrain constructible, dédié à de l'activité commerciale, et on lui dit aujourd'hui, ça va rester un champ. Donc très grosse perte économique. On lui dit, il faut reconstruire là où vous êtes. Il ne va pas arrêter son activité pendant 2 ans, mes yeux ne pourraient pas fonctionner. Il y a 80% des achats alimentaires de la ville qui sont au Leclerc. Donc si on supprime pendant 2 ans le Leclerc, je ne sais pas comment on fera. Donc il va falloir fonctionner avec un phasage assez compliqué à mettre en œuvre, avec un coût supplémentaire. Donc le point d'équilibre qui a été fait, il est triple. Un, on garde l'espace agricole à la demande de la métropole. Pour avoir un équilibre économique, on détache une bande et on fait un projet de logement, ce qui permet à la ville de satisfaire à ses obligations obligatoires de logement, de production de logement demandées par l'État. Et on accompagne le porteur de projet dans un phasage cohérent pour pouvoir produire, reconstruire à Leclerc sur l'ancien avec des solutions. Donc le compromis a été trouvé, ça a mis du temps, hein, c'est de la négociation. Le compromis, il a été trouvé. Le porteur de projet privé est d'accord, la ville est d'accord, la métropole est d'accord. La commission départementale des activités commerciales avec les représentants des consommateurs, tout le monde est d'accord, il y a un avis favorable. Maintenant, on est au niveau national où il y a des réserves, ce qui fait qu'il n'y a pas eu un accord. Mais aujourd'hui, toutes les planètes sont alignées. Si ce projet ne se fait pas, il n'y a pas de... En fait, il ne peut pas se faire. Le plan B, eh bien, ça veut dire qu'il faudra refaire des activités commerciales différentes. Mais ça n'est pas... on ne va pas remplacer le Leclerc par du commerce de centre-ville, ça ne fonctionnerait pas. Il faudrait qu'on ait un centre-ville 10 fois plus gros. On n'est pas sur les mêmes masses. Donc aujourd'hui, les réponses sont fournies à la Commission nationale. J'espère qu'ils entendront tous les éléments locaux, parce qu'encore une fois, tout le monde a bien compris que ce projet était indispensable. Si ce projet ne se fait pas, moi, je devrais nécessairement remettre à plat toutes les décisions qui ont été prises. Mais toutes, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État, nous avons un contrat de mixité sociale signé. Un contrat, c'est un engagement. Il y a la métropole, il y a la ville, il y a l'État. Si au niveau de l'État, au travers de la Commission nationale, refuse le projet Leclerc, pour moi, c'est une rupture contractuelle. Et tout ce qu'on a prévu en production de logements, notamment sur la ville, devra être remise en cause. Et donc, c'est vraiment cette capacité d'accompagner le développement de la ville qu'on remettra à plat en disant s'il n'y a pas...
Mais ce n'est pas ce qui se profile pas... visiblement. Christophe Quignoux est notre invité dans Carte électorale. Il nous reste très peu de temps pour le questionnaire de l'émission. Très peu de temps, donc ça veut dire des réponses courtes. Je vous rappelle le principe, les mêmes questions posées à chaque invité qui défile à ce micro. Et la première est la suivante, quelle est la mesure politique en vigueur à l'étranger que vous aimeriez voir appliquée en France ?
Alors un sujet d'actualité qui pourrit la vie de mes habitants, ce sont les rodéos, en tout cas les motos qui tournent tous les week-ends. Si on avait la capacité, comme en Angleterre, d'avoir des capacités d'intervention plus fortes pour mettre fin à ça et bloquer les fauteurs de troubles, j'en serais ravi.
Quelle est la rencontre la plus marquante que vous ayez faite dans votre parcours politique ?
C'est la rencontre avec Gérard Larcher dans un temps off juste à côté d'ici.
Président du Sénat. Donc.
Le président du Sénat lors de la campagne de François Fillon où j'ai eu l'occasion de partager un repas à la Brasserie Georges juste à côté, donc en toute décontraction, où j'ai vu un homme d'une clairvoyance et d'une projection sur l'avenir, c'est-à-dire j'ai croisé un homme politique d'ampleur nationale et internationale qui voyait bien au-delà d'un cercle limité à quelques mandats.
Et on imagine que c'était forcément autour d'un repas, d'un bon repas, comme peut le fournir la Brasserie Georges. Quelle est l'application mobile sur votre smartphone dont vous ne pourriez pas vous passer ?
J'avoue que je suis un très grand utilisateur de l'application Strava. Donc pour et me maintenir en forme et
pour le running, donc les coureurs,
et pour la pratique du cyclisme pour ma part.
Puisque vous êtes, comme l'indique votre compte X, un vélo taffeur, ça veut dire que vous êtes un cycliste pour aller au travail notamment, mais vous êtes également un grand cycliste.
Je suis aussi un gros rouleur qui fait près de 25 000 km par an sur les routes.
Quel est le dernier livre que vous avez lu et qu'en avez-vous retenu ?
Alors le dernier est un livre léger, mais je vais rester honnête, le tout dernier que j'ai fini, c'était la fin de la saga Fondation d'Isaac Asimov, qui est coté comme un des qui a posé les bases donc de la science-fiction.
Et qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous en retenez quand vous plongez dans la science-fiction comme ça ?
Alors, c'est surtout la science-fiction n'est qu'une excuse pour avoir une critique de la société et des erreurs à ne pas faire pour garder une humanité le plus longtemps possible.
Et dernière question, quelle est la personnalité politique actuelle qui n'est pas de votre bord politique, avec qui vous aimeriez partager un café ?
Ce n'est pas une question facile. Moi, j'ai l'habitude de parler avec tout le monde, notamment avec la métropole. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc, celui que je ne comprends pas du tout, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est là où j'ai le plus de questions et j'aimerais comprendre pourquoi il a des propos que je ne comprends pas.
Fondateur de la France Insoumise. Merci beaucoup Christophe Quignoux d'avoir été au micro de Carte électorale cette semaine. Je rappelle que vous êtes donc le maire de Mézieux. Mézieux, c'est dans l'Est lyonnais, évidemment, commune de la métropole de Lyon. Vous siégez dans l'opposition, on l'aura bien compris, vous qui êtes élu divers droite. Carte électorale, c'est terminé pour aujourd'hui. On remercie Benoît Lotte à la technique et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On recevra l'ancienne ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui conseillère régionale socialiste, Najat Vallaud-Belkacem, pour la sortie d'un livre sur les réfugiés. Excellent week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. Carte électorale, c'est terminé pour aujourd'hui, mais la politique lyonnaise et locale revient la semaine prochaine à la même heure. Tout de suite, on parle écologie avec l'émission Comme une planète, présentée par Thierry Weber.
Aujourd'hui dans Comme une planète, on va parler sport et préservation de la biodiversité. C'est d'un côté un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Avec 12 millions de pratiquants, la course à pied est désormais ancrée dans la vie de près d'un quart des Français. Les mots de trail ou encore d'ultra-trail sont devenus presque aussi courants que le plus historique marathon. De l'autre côté, c'est devenu une nécessité, sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité de différentes manières, par tous les moyens possibles, pour rejoindre un maximum de personnes, comme avec cette course Run for the Planet qui est organisée à Lyon le 22 juin, une course éco-solidaire pour soutenir des projets de préservation du vivant. Notre invité du jour, lui, a sauté le pas il y a quelques mois déjà. Le fait d'allier son attrait pour l'environnement et sa pratique de la course à pied est devenu une habitude pour attirer l'attention sur la nécessité de préserver la biodiversité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Comme une planète où l'on accueille aujourd'hui un Indinois né en Isère, Grégoire Fauvin.
Comme une planète, le magazine de l'écologie. Une émission présentée par Thierry Weber.
Grégoire Fauvin, bonjour.
Bonjour.
Alors avant de parler de course à pied et de protection de la biodiversité, comment est-ce que l'environnement, peut-être de manière générale, est devenu important pour vous dans votre vie ?
Alors pour moi, je pense que cet attrait pour l'environnement, il est venu dès le plus jeune âge. Déjà tout petit, en fait. J'étais habitué à être assis dans l'herbe, à regarder les insectes, les déjà attirés par tout ce qui est petit et qui nous entoure. Et c'est par curiosité en fait, ou en regardant ce qu'il y avait dans l'herbe, ça a attisé ma curiosité. Et c'est là qu'est né un peu mon attrait pour l'environnement. Et après, donc moi j'ai fait un lycée agricole où je me suis intéressé. Il y en avait un peu des cours d'agronomie et en creusant un petit peu tout ce qui est science de la vie, vie du sol, fonctionnement d'une exploitation agricole, j'ai commencé à comprendre certains mécanismes et de fil en aiguille, ça a développé un peu mon intérêt pour l'écologie et l'environnement.
Donc un souvenir d'enfance, mais qui s'est aussi concrétisé aussi dans votre métier. Ça s'est concrétisé aussi dans votre vie de tous les jours, dans vos loisirs. Ça nous amène à fin 2024, où vous avez un petit déclic, peut-être le fait d'allier course à pied, que vous pratiquiez occasionnellement, et protection de la biodiversité. C'est ça l'histoire ?
C'est un peu ça l'histoire, ouais. Alors c'est venu un peu plus de par mon métier, d'agronome, où j'accompagne en fait certains exploitants à développer la biodiversité sur leur exploitation avec les auxiliaires de culture. Et puis on a commencé à creuser un petit peu plus les relations biodiversité et entreprise, tout ce qui est services écosystémiques. Et de là, j'ai eu envie d'agir. Je me suis dit, pourquoi pas agir? Et du coup, ma pratique sportive aussi. Alors moi, je pratique pas énormément de sport à part les travaux de rénovation de ma maison de base. Et je me suis mis à courir comme ça un peu aussi pour aller un peu en nature, voir un peu plus loin ce qui se passait autour de chez moi. J'ai la chance d'habiter dans une petite commune, donc Saint-Genis-sur-Menton, où il y a énormément de petits chemins de terre avec des haies, qui traversent des forêts, des parcelles agricoles. Et assez vite, on est au contact de la nature, donc c'est assez agréable. Donc de là, j'ai commencé à courir en fait, et puis est venue cette idée un peu de challenge. Alors j'avais le cap des 30 ans, je m'étais dit tiens, j'aimerais bien courir un marathon avant mes 30 ans. Donc je me suis inscrit à un trail, le trail des Maquisards dans le Bugey. Et pour me donner un peu une motivation en plus, un boost, je me suis dit pourquoi pas profiter de cette course pour faire une cagnotte pour défendre une cause qui me tient, donc la préservation de la biodiversité. Ça m'a été un peu inspiré par mon petit frère qui avait fait une course pour financer, c'était un fauteuil en e-sport. Voilà, il avait fait une course avec une cagnotte et ça m'avait dit tiens, pourquoi pas courir pour une cause. Voilà un petit peu.
Donc ça, c'était le trail des Maquisards, c'était en février de cette année. Combien est-ce que vous avez récolté et concrètement, à quoi va servir cet argent? Parce qu'on comprend bien, vous n'avez pas couru juste pour votre intérêt personnel, mais bien pour ces projets que met en place la LPO en Auvergne-Rhône-Alpes, la Ligue de protection des oiseaux.
Alors exactement, à la fin de la cagnotte, on est arrivé à 2095 euros. C'est un palier qu'on avait espéré qui est très bien. Et du coup, sur à quoi va servir ce financement, en fait, l'LPO, ils ont plusieurs programmes. Il y en a un qui me parlait bien, en fait. Moi, je les ai rencontrés, puis c'était la semaine de Noël où je leur ai envoyé un mail pour parler partenariat. Ils ont tout de suite été partants pour monter cette cagnotte. Et donc, ils m'ont parlé de différents programmes qu'ils avaient, dont le programme agricole, c'est mon cœur de métier. Donc, j'ai tout de suite compris. Je savais que je pourrais mieux en parler pour aller expliquer, justement, pourquoi je montais cette cagnotte-là. Et donc ça a servi à financer en fait des bandes fleuries à proximité des parcelles agricoles. Ça va financer des haies, l'implantation de haies. Et en atteignant le troisième palier, on va aussi financer l'implantation de mares, la construction de mares en zone agricole. Donc tout ça en fait, ce sera bien sur des exploitations agricoles que ça aura lieu. Et donc pourquoi en fait c'est important en fait cette notion de biodiversité en milieu agricole. La biodiversité nous rend tout un panel de services. Et ce qu'on va chercher, il y a des services écosystémiques qui sont hyper importants en agricole, comme la pollinisation des cultures et aussi la régulation des ravageurs de cultures. En fait, dans la nature, il y a tout un tas d'auxiliaires qui servent aux exploitants. Et l'idée, c'est de les maximiser, les optimiser pour avoir une bonne régulation naturelle en fait, des ravageurs de culture. À titre d'exemple, par exemple, il y a des chenilles qui vont par exemple manger qui vont s'introduire dans les pommes de choux. Elles vont manger les choux qui pourraient les rendre impropres à la vente. En fait, on a tout un tas d'auxiliaires, comme par exemple les oiseaux qui vont manger une mésange. grange. Par exemple, pendant la période de nidification, elle va aller capturer entre 300 et 500 chenilles par jour. Donc elle va protéger en fait 300 à 500 choux potentiellement par jour, ce qui est assez important, assez énorme. Il y a aussi sur cette chenille, par exemple, il y a des taquinaires qui vont aller pondre sur ces chenilles et de là va sortir une larve de taquinaire qui va manger la chenille. Donc elle va réguler comme ça les populations de chenilles. Donc nous, ça va nous être intéressant en agricole et c'est justement ces auxiliaires qu'on va chercher à optimiser autour des parcelles pour limiter en fait le recours aux insecticides en fait en production.
On l'entend, c'est quelque chose qui vous passionne et c'est bien d'entendre aussi que ce projet de trail va déboucher aussi sur quelque chose de concret. Je reviens toujours peut-être sur cette notion de course à pied, mais toujours liée à l'environnement. La course à pied, je l'ai dit dans mon introduction, c'est quelque chose qui s'est quand même démocratisé. Ça reste quand même un exercice assez solide. Est-ce que justement le fait de courir à la fois pour soi, parce que ça fait du bien à l'organisme et c'est une bonne chose, mais il y a aussi le fait de courir pour une cause, c'est important pour vous qu'il y ait ces deux en même temps? Vous avez parlé aussi de ce rapport à la nature quand vous avez recommencé ou commencé la course à pied il y a quelques mois.
Moi, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un grand sportif de base. J'ai couru quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de volley, mais je n'ai pas une grande pratique sportive. Et clairement, ce défi, donc le trek des Maquisards, c'est ce à quoi je me suis inscrit, c'était quand même 42 km le 15 février de nuit, parce que le départ était à 21h avec 1700 mètres de dénivelé positif. Clairement, moi qui n'étais pas un grand coureur, c'était un gros challenge et ça m'a clairement porté dans ma pratique. Enfin, tout le long de la course, ça m'a porté. Hein. Si je puis dire, ça m'a donné des ailes. Hein. La LPO m'a donné des ailes.
C'était quelque chose d'important pour vous, on l'entend. Derrière vos explications et le fait de courir pour une cause, il y a aussi un aspect de sensibilisation. Est-ce que justement, c'est important pour vous de sensibiliser par le biais d'un exercice simple, la course à pied? Vous l'avez dit, c'est votre métier, c'est quelque chose qui vous passionne. Est-ce qu'il y a aussi cet enjeu de sensibiliser aujourd'hui peut-être des gens qui n'auraient pas forcément un attrait pour l'environnement, pour la biodiversité de prime abord?
Ouais, c'est un peu un des deuxièmes objectifs un peu de cette canotte, c'était aussi d'en parler biodiversité, et ça a plutôt bien marché parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu connaissance de ma course, quoi, de la canotte que je faisais, et qui après avec qui j'ai pu avoir des échanges justement sur la biodiversité, donc ça c'était assez intéressant. Et comme disait la LPO, là on est en montant, hein, c'est 2095 €, c'est très 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 bien, mais ce qui compte le plus, c'est limite de dire qu'on peut s'engager en faisant du sport. Si sur tous les participants, chacun courait pour une cagnotte avec une cause qui défend, ça permettrait peut-être de soulever des montagnes sur certains sujets, quoi.
Ça s'inscrit notamment dans le programme Sport et Biodiversité, Protégeons la Nature. Hein, c'est un des programmes portés par la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux, avec cette idée que la nature est un terrain de jeu qu'on peut pratiquer, mais que c'est avant tout un milieu vivant à protéger. Ça me lance sur ma prochaine question. Vous l'avez dit en introduction que le fait de courir pour vous dans la nature, c'est aussi être proche du vivant, c'est aussi découvrir cette nature qui vous environne. Ça provoque quoi comme sensation quand on court dans la nature? Parce que par exemple, quand on est en ville, on peut courir, mais on court sur du bitume. Ça reste de la course à pied, mais c'est quand même pas la même chose. Qu'est-ce que ça vous provoque comme sensation de courir, de faire du sport, de vous défouler peut-être après une journée de travail, le fait de courir dans la forêt, dans la nature?
Alors justement, cet aspect nature, il est essentiel et c'est juste incroyable. Hein. Moi j'ai déjà couru en ville et clairement je ne referai pas, j'apprécie pas l'exercice. C'est vraiment, tout à l'heure il y avait une question sur courir en solitaire. À vrai dire, j'ai envie de dire qu'en cours en nature, du moins là où j'ai la chance de pouvoir courir, c'est jamais en solitaire parce que je fais toujours des rencontres, alors de près ou de loin, mais c'est ça que je vais chercher le plus, à vrai dire, plus que la performance ou aller chercher un effort physique, c'est aller chercher des rencontres avec la faune sauvage. Enfin, on croise des animaux, c'est incroyable des fois. Alors surtout quand moi je courais surtout l'hiver et de nuit, et c'est vrai qu'on croise des animaux qu'on ne croise pas en plein jour, et puis c'est une chance de pouvoir approcher des blaireaux, des chouettes effraies, des chouettes chevêches d'Athéna, toute une faune que on découvre en fait, et qui est là sous nos yeux, qui est parmi nous, qui est autour de nous, Et c'est ça qui m'intéresse aussi, de suivre les saisons. Quand on voit, voilà, il y a des oiseaux migrateurs, il y a aussi des chauves-souris. Moi, au printemps, une fois, je courais et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce coup-là, c'est vachement bruyant, parce qu'en fait, on entendait beaucoup de chauves-souris la nuit. Et c'est vrai que, en fait, on redécouvre que la nature se réveille au printemps, avec les montées des températures aussi, avec toute une faune qui peut être migratrice aussi. C'est hyper intéressant. Et chaque, il y a aucune course qui se ressemble, en fait, parce que chaque fois, je fais une rencontre différente, quoi.
Donc ça permet de suivre aussi l'évolution naturelle de la nature. Quand on parle course à pied et environnement, il y a de plus en plus d'études qui sortent, des études scientifiques sur l'impact des marathons, l'impact des trails sur la nature. Parce qu'à la fois, oui, on court en nature, mais à la fois, c'est des organisations, c'est ces événements qui sont de plus en plus grands et qui ont des impacts assez négatifs, justement, sur la biodiversité, sur la protection de la nature. Est-ce que le milieu du running que vous avez un tout petit peu touché du doigt avec ce trail des Maquisards en février, ben est-ce que lui aussi doit opérer cette transition? Et peut-être est-ce que le fait que de plus en plus de coureurs courent justement pour une cause environnementale peut aider à cette transition?
Clairement oui, je pense que dans tous les cas il y a des progrès encore à faire dans ce domaine-là. Je sais que le trail des Maquisards avait contacté justement la LPO pour connaître dans leur programme Biodiv Sport justement les zones, s'il y avait des zones un peu sensibles d'un point de vue biodiversité pour construire le parcours en ce sens-là. Ça, je pense que c'est des choses qui devraient être un peu qui devraient devenir la norme. Voilà, se questionner sur là où on passe, sachant que c'est souvent des milieux très naturels où il n'y a pas beaucoup de passages. Et là, quand on fait venir plusieurs milliers de participants, c'est vrai que ça pose question. Il y a sûrement des progrès à faire.
On arrive bientôt à la fin de notre échange. Est-ce que pour vous, l'idée, ça serait d'aller plus loin? Souvent, on parle avec des personnes qui font un trail. Alors, vous, pour le coup, vous l'avez fait pour une cause. Est-ce que votre idée, c'est d'aller plus loin, c'est de continuer à sensibiliser, peut-être par le biais de la course à pied, mais peut-être aussi par un autre biais?
Alors, moi, cette question de la sensibilisation à la biodiversité me tient particulièrement à cœur, parce que on peut protéger que ce qu'on connaît. Donc, c'est important de faire connaître justement tout ce vivant qui nous entoure. On a parlé un peu de faune sauvage, mais aussi tout ce qui est les insectes qui sont sous nos yeux. C'est fascinant. S'asseoir dans une prairie pendant 10 minutes, en fait, vous voyez une quantité, vous découvrez des insectes chaque minute, quoi. C'est impressionnant. Et pour sensibiliser justement à la biodiversité, moi, je me suis lancé avec un réseau d'intervenants Tableau Vert. C'est un réseau local d'intervenants en école pour justement sensibiliser à tout ce qui est biodiversité, aussi le lien avec l'agriculture. Moi, je me lance là-dedans, des interventions en école pour parler biodiversité.
Donc sensibiliser les plus jeunes aussi. Bah, écoutez, on pourra peut-être en reparler lors d'une prochaine émission. Merci beaucoup Grégoire Fauvin pour cet échange sur la course à pied, la biodiversité, ce domaine de la course que vous avez appris à découvrir ces derniers mois, et puis cette protection de la biodiversité. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Comme une planète, c'est aussi sur internet, sur rcf.fr. Et maintenant, prenons le temps de lire avec Délivrez-vous.
Et dans Délivrez-vous, nous allons à la rencontre de Toudouk l'ours brun et ses nombreuses aventures avec Arnaud et Marie-Laetitia Degarille.
Délivrez-vous. Laetitia de Traverset.
Et nous partons voyager avec l'ours Toudouk et ses nombreux amis au Tyrol, au pôle Nord et même au parc des Écrins, sans oublier la Grèce bien sûr. Ce sont les créateurs de cette grande famille oursonne qui viennent nous en parler. Bonjour Marie-Laetitia et Arnaud Degarille.
Bonjour.
Bonjour Laetitia.
Alors c'est une aventure qui dure depuis plus de 10 ans et vous étiez d'ailleurs venu nous en parler sur RCF. Et à l'époque, vous cherchiez un éditeur. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Alors, depuis, on a eu la chance d'être sollicité un jour par les éditions du Triomphe qui avaient entendu sur la place de Lyon notre petit Toudouk faire du rififi. Ils nous ont contactés et nous ont proposé un contrat. Et depuis lors, c'est une grande histoire de fidélité, puisqu'ils sont toujours notre éditeur.
Et grâce à ça, Toudouk a vécu de nombreuses aventures. Alors, il y a Toudouk au Tyrol, Toudouk au Parc des Écrins, Toudouk et ses frères jumeaux, Toudouk prépare Noël, Toudouk et la Mésange, et enfin, Toudouk et l'âne Ulysse. Comment cette idée d'ours vous est-elle venue ?
J'ai toujours aimé les ours étant petite. Je n'ai jamais joué avec les poupées, jouais à la dinette avec des ours en peluche. Et c'était évident que notre petit héros serait un ours.
Vous avez décidé de travailler à deux, hein, ces albums. C'est une aventure de couple pour
oui,
vous ?
Oui, oui, c'est réellement une aventure de couple. On va dire que dans l'ébauche de l'histoire, eh bien, c'est à deux que nous la décidons. Peu à peu, on élabore finalement le fil directeur de l'histoire en le faisant ensemble au brouillon.
Oui, on fait des petites maquettes de chaque page où il y a un petit croquis très succinct.
Et c'est vous qui faites les dessins ?
Oui. Oui.
C'est vous, Marie-Laetitia ?
Oui, je suis illustratrice.
Bah, bravo, hein, ils sont magnifiques.
Et oui. Arnaud m'aide beaucoup aussi, parce qu'il y a pas, il est très important pour moi, parce qu'il va corriger les fautes de perspective, les proportions, il donne des idées, donc c'est très important.
Et alors, vous nous emmenez voyager, hein, on va au Tyrol, en Grèce, au pôle Nord. Alors, on a envie de vous demander, vous êtes allé sur la banquise, voir comment ça se passait ?
Alors, en fait, il traduit nos passions, ce petit Toudouk. Nos passions sont la nature, la montagne, les voyages et la Grèce. Alors, et non, nous ne sommes pas allés dans tous les endroits cités, mais...
Mais en Grèce, peut-être.
Alors, une vingtaine de fois
ah, quand même.
En vacances, donc il fallait que ça passe par la Grèce.
Oui, hein, ça sent d'ailleurs dans Toudouk et l'âne Ulysse, on voit qu'il y a du vécu, il y a des endroits d'ailleurs qu'on peut visiter en Grèce. C'est une façon finalement de donner envie peut-être d'y aller.
Une invitation au voyage.
Oui, alors justement, prenons Toudouk et l'âne Ulysse en Grèce. Il y a un jeu de piste hein, que vous proposez sur les traces d'Ulysse. Alors on va rappeler qui était Ulysse.
Eh bien oui, Ulysse fait partie de la mythologie. Oui, alors précisément, Ulysse est celui qui, dans l'Iliade et l'Odyssée, a un rôle assez important de guide un peu, et on le suit bien volontiers dans cette homérique histoire. Nous l'avons symbolisé par un petit âne qui montre le chemin et qui laisse des petites empreintes à ses oursons de façon qu'ils soient suivis jusqu'au bout.
Donc Théodoros visite les météores avec ses neveux. Donc Théodoros, c'est celui qui va les accueillir sur place. Hein. Observez ces monastères accrochés au sommet de ces énormes rochers. Eh bien autrefois, pour aller au village, leurs habitants descendaient puis remontaient dans un grand panier suspendu au bout d'une corde. Et nous allons faire comme eux. Alors du coup, ben, on voit vos petits ours dans le panier qui montent. Si nos auditeurs n'y sont jamais allés, c'est impressionnant. Hein. C'est vraiment des pitons rocheux très hauts avec ces monastères qui sont vraiment posés dessus comme des nids d'aigle.
Accrochés,
absolument.
Oui.
Et l'accès autrefois... Donc pour les moines, était essentiellement par ces filets, en particulier pour tous les sujets de matériel, de course. Et l'accès était normalement très limité, de façon que seuls les pénitents ou les gens qui voulaient se recueillir puissent y avoir accès.
Alors vous nous emmenez aussi découvrir l'Acropole. C'est magnifique d'ailleurs puisqu'il y a un feu d'artifice. Là on voit vos trois petits ours, bruns et blancs, hein, parce qu'il y a deux familles. Il y a la famille des ours blancs et des ours bruns.
Oui, le Toudouk fait partie d'une famille donc du pôle Nord et il a des cousins ours bruns qui sont dans le Tyrol et à chaque fois ils passent les vacances ensemble.
Et ce qui est amusant, c'est qu'à la fin vous faites un petit bilan des ours en Grèce. Alors moi je ne savais pas. Et oui, les ours sont nombreux en Grèce. Encore dans les années 1990, des montreurs d'ours capturaient des oursons. Ils les dressaient afin de les donner en spectacle dans les villages. Et là, ces pauvres animaux étaient régulièrement malmenés et battus. Et heureusement, donc, vous dites, en 93, qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, en 93, le gouvernement a décidé de mettre un terme à cela, aidé également par certaines associations dirigées par Brigitte Bardot, afin que ces pauvres ours soient réadaptés à la vie sauvage et puissent être éventuellement remis dans leur région d'origine.
Et vous parlez d'un centre de protection même des ours bruns, Arcturos, le refuge Arcturos.
Il est vers les météores, c'est pour ça que l'histoire commence aux météores.
Alors on va écouter cet extrait de Belle et Sébastien Genépi et vous nous direz pourquoi après et on poursuivra nos aventures au pays des ours Toudouk.
Mmh.
Genepi, cet extrait de Belle et Sébastien, alors que nous évoquons votre série Toudouk, Arnaud et Marie-Laetitia de Garrigues. Alors Toudouk, c'est cet ours, hein, ce petit ours et sa famille qui vivent de nombreuses aventures dans différents pays où il y a des ours justement. Pourquoi cet extrait de Belle et Sébastien ?
Étant petite, j'habitais dans le nord de la France et j'ai toujours été passionnée de la montagne en n'y étant jamais allée. Et Belle et Sébastien a marqué mon enfance. Ce beau chien blanc et surtout la gaieté de ce petit personnage, et je pense que j'étais un petit peu inspirée pour les histoires et la montagne.
Alors, vous nous emmenez aussi au pôle Nord, moi j'ai adoré ça parce que j'y suis jamais allée, mais ça m'a toujours fait rêver. Toudouk et ses frères jumeaux au pôle Nord, il y a toute une histoire de famille, hein, difficile de faire la place à deux oui. bébés en même temps. Et donc le Toudouk qui est l'aîné, oui. Va se retrouver triste, hein, c'est ça, et grognon, comme ça peut arriver dans certaines familles.
Tout à fait. Là, nous avons été beaucoup aidés pour l'histoire par notre fille aînée, qui est psychologue, qui travaille dans des écoles, et qui nous a vraiment guidés en disant il y a des enfants qui sont extrêmement malheureux. L'attente d'une petite sœur et avoir deux petits frères, ça peut être un problème. Nous avons envisagé d'écrire cette histoire dès que nous avons été d'heureux futurs grands-parents. Notre dernière fille nous a annoncé qu'elle attendait des jumeaux.
Ah, donc c'est aussi une histoire de famille.
Voilà.
Oui.
Hein, et alors, je lis ce que dit Toudouk quand il voit les deux jumeaux. Tu as vu, Micomac, tout le monde admire les jumeaux et leur offre plein de cadeaux. Moi, rien. Les jumeaux par-ci, les jumeaux par-là, avec leurs couches dégoûtantes. Pouah, je les déteste, ils prennent trop de place. À cause d'eux, mes parents m'aiment moins. Tu vas voir, j'ai une idée. Et donc, alors, il y a toute une histoire de ce pauvre Toudouk qui est malheureux comme les pierres. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous le faites cheminer, les parents se rendent compte de son malaise.
Bien sûr.
Et il va finir par écrire une charmante lettre que vous faites figurer dans l'ouvrage et vous raconter, voilà, être un gentil grand frère. Alors, c'est ce que dit Toudouk. Hein. Oui. Il écrit une lettre aux jumeaux. Être un gentil grand frère m'a pris du temps et aujourd'hui, j'en suis très content. Du fond du cœur, voici ces quelques mots. Je vous aime tant, mes petits frères jumeaux, deux oursons d'amour. Et Toudouk, alors, il a fait plein de petits dessins avec les jumeaux par-ci, les jumeaux par-là, histoire de dire qu'on peut cheminer dans cette difficulté, cette jalousie hein, qui peut exister entre les frères et sœurs.
Et surtout, dans cette histoire-là, comme il est très ami avec sa cousine Bloom, quand la famille vient rendre visite et que Bloom prend soin des frères jumeaux, Toudouk change aussi parce qu'ils se sont aimés par ses parents et aussi important parce qu'avoir un petit frère, quelle chance, sa petite cousine n'a pas ce bonheur. Et donc tout se termine bien parce qu'il faut de la douceur, il faut de l'amour et surtout de la bienveillance.
Oui, alors vous proposez aussi les cookies moelleux de la banquise.
Oui,
ça m'a donné envie d'essayer. Hein. Alors, il y a des jaunes d'œufs, de la farine, des morceaux de chocolat et une pomme.
Oui, c'est la recette de ma tante canadienne.
Alors, il y a d'autres albums qui nous emmènent, comme vous disiez, dans des pays montagnards. Il y a le Tyrol. Et puis Toudouk et la Mésange. Alors là aussi, ce sont des endroits où vous êtes allé.
Oui, oui, oui. Dans Toudouk et la Mésange, ça se déroule en zone montagneuse qui évoque tout à fait le parc des Écrins où nous allons souvent.
Les Hautes-Alpes.
Et nous voulions une histoire un peu douce et printanière qui soit une petite évocation de Pâques. Toute la petite équipe aide une mésange à refaire son nid. Et on découvre une petite souris dont Laetitia va peut-être donner
quelques... Qui se cache dans tous les dessins hein, qu'il faut trouver.
En fait,
exactement.
Qui apporte son aide, mais d'une manière discrète et que l'on découvre seulement à la fin.
Oui, et on découvre aussi que la mésange zinzinule, je ne savais pas.
Oh, alors ça, c'est un terme qu'on a trouvé. Au début, c'était le fruit d'un jeu de mots. Et puis, en creusant un petit peu, effectivement, on a identifié que cet oiseau-là zinzinule. Et ça nous a beaucoup fait rire. Quelquefois, j'essaye dans les textes d'ajouter une pointe de folie ou une pointe d'humour ou une pointe de choses... presque impossible, qui font rire nos bêta-testeurs que sont nos petits-enfants.
Alors, vous allez aussi dans les écoles faire quoi exactement ?
Alors, dans les écoles, nous allons présenter une vidéo que nous avons faite nous-mêmes aux enfants pour les accueillir dans le monde de Toudouk. Et à la suite de ce film, on discute avec les enfants selon les niveaux, parce qu'on va de grandes sections en CE2. Et ils ont déjà préparé des questions et ils voient tout ce qu'il y a derrière un livre. Donc, il y a le plaisir de lire d'abord. Et ensuite, c'est intéressant de voir comment on fait un livre. Donc, il faut trouver un éditeur. Il faut d'abord comment on dessine. Et on a fait une petite vidéo pour les plus grands avec Donc la découverte de la technique, parce que maintenant on fait ça à l'ordinateur sur une tablette graphique, on ne peut pas scanner des aquarelles. Et les enfants souvent ont vraiment mordent à l'hameçon et ont envie de créer un livre.
Extra. Et, alors du coup, ça crée des vocations, hein, c'est ça ?
Oui. On a pu remarquer, quand on suit une école pendant plusieurs années, qu'on voit les enfants grandir, que d'abord, beaucoup connaissent Toudou, que c'est à une certaine notoriété locale, qui est pour nous la plus belle des reconnaissances. Et puis, on remarque, quand on discute avec eux, qu'ils aiment de plus en plus dessiner et qu'ils aimeraient aussi... faire un livre et, en tout état de cause, lire, beaucoup lire. Et pour nous, c'est le défi. Apporter de la joie et apporter des moments familiaux, peut-être le soir, où les parents lisent l'histoire de Toudouk à leurs petits-enfants dans un climat de douceur. Toudouk, Toudouk, voilà, tout est là.
Ah oui, c'est ça. Alors donc, on voit que Toudouk a déjà fait des petits, des émules. Quel serait le prochain défi pour vous deux ?
Le prochain défi, c'est de continuer. En gardant tout le temps le souci du travail bien fait et fidèle dans les illustrations et apporter, je pense, beaucoup de bonheur aux enfants. J'ai une anecdote à raconter. Nous étions au ski dans notre petit village de Chazelet et j'avais un petit porte-clés sur mon sac à dos, un petit nounours blanc. Il y a une petite fille derrière qui dit à sa maman « Regarde maman, on dirait Toudouk ». Je me suis retournée, je lui dis « Tu connais Toudouk ?» Elle croise ses petits bâtons de ski avec ses moufles rouges et elle dit « J'aimerais tellement qu'il soit vrai. » Pour moi, ça a été le plus beau cadeau. Et c'est ça, on voudrait donner de la douceur, le plaisir de lire et surtout des moments en famille.
Un point important que Laetitia a soulevé, c'est la cohérence entre tous les albums. Chacun a là, finalement son histoire, a sa propre caractéristique, mais cependant, dans les dessins, dans les histoires, il y a une grande cohérence, une grande fidélité, une grande continuité. Et c'est cette notion de continuité qui nous impressionne beaucoup et qui, même à travers le patrimoine que l'on laisse finalement grâce au livre, laissera une trace après nous.
Oui, je voulais aussi dire que l'histoire de Toudouk, c'est une histoire familiale, puisque sont impliquées nos trois filles et nos six petits-enfants. Et chacun a son rôle. Il y en a une qui va dire des conseils en psychologie de l'enfant. Il y en a une autre qui est très littéraire, qui va donc aider pour le texte, raccourcir les, mettre des anecdotes parce qu'elles vivent avec leurs enfants. Donc on voudrait remercier aussi nos filles et nos petits-enfants.
Eh bien, un grand merci d'être venu nous faire découvrir un petit peu plus de l'intérieur, hein, les coulisses de Toudouk. Alors, Toudouk au Tyrol, Toudouk au Parc des Écrins, Toudouk et ses frères jumeaux, Toudouk prépare Noël, Toudouk et la Mésange, et enfin, Toudouk et l'âne Ulysse en Grèce. C'est publié aux éditions du Triomphe. Et puis, alors, un hommage spécial à Marie-Laetitia, qui est blessée à la suite d'une chute à ski et qui est quand même venue nous parler de Toudouk à la montagne. Moi, je dis bravo.
Et c'est nous qui vous remercions, Laetitia.
Et bonne continuation et surtout, belle création avec les enfants.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous donner cette possibilité.
Délivrez-vous, l'émission qui aime les écrivains, à réécouter en vous rendant sur le site rcf.fr. Et dans un instant, où va la vie ?
It's raining. What has become of my painting? All the colors are running.
So all the colors run.
RCF, il est 18h.
Notre-Dame, RCF, Denise Dumoulin.
En ce dimanche 15 juin, nous voici à célébrer la Sainte Trinité. Solennité qui vient après Pentecôte. La première lecture de ce dimanche sera tirée du livre des Proverbes au chapitre 8. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Ce rapport du Seigneur et de la sagesse, nous le retrouvons d'une autre façon dans les